With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je trouve que je gagne moins que ce que, entre guillemets, je mériterais de gagner. Je pense que j'associe aussi l'argent à un statut social que j'estime avoir un peu perdu. Je sais que j'ai un parcours dont je peux être fière. Moi, j'étais assez fière de mon salaire, même si c'est pas, tu vois, les 10 000 par mois. Mais je veux dire, voilà, j'étais bien, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'on m'admire plus parce que j'ai osé franchir le pas. Que pour ce que je gagne, et j'ai envie de montrer qu'un artiste, par exemple, peut bien gagner sa vie, et je trouve que je ne le représente pas encore aujourd'hui.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent, tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
T'es un peu stressé ?
Oh, ça va, je pensais l'être plus.
Okay.
Pour l'instant, ça va, mais peut-être qu'avec les questions...
Non. Normalement, une fois que c'est lancé, c'est tout bon. C'est un sujet que tu... C'est un sujet que tu appréhendes énormément dans ta vie, c'est ça, l'argent ?
Non. Non, c'est un sujet j'aime parler de ce sujet, en fait.
Okay.
Enfin, pas depuis si longtemps, mais depuis que je me suis lancée, je crois, à mon compte.
On va en reparler, hein, tout ça.
Ouais.
On est donc avec Ilan. Mais... Salut.
Bonjour, Fabrice.
Je t'ai coupé, tu allais dire mais.
Ah bon ? Ah,
non,
je sais plus. Non, oui, je disais, je m'intéresse au sujet de l'argent depuis que je me suis lancée en entrepreneur. Mais je pense qu'en fait, je m'y intéressais déjà avant,
okay,
sans l'avoir...
conscientisé.
Voilà, c'est ça.
Ok. Donc on est donc avec Ilan, et effectivement t'as été la première personne, je crois, à m'envoyer un mail après l'annonce de la sortie du podcast. Et en fait le podcast c'était même pas encore sorti que tu m'as envoyé un mail directement en me racontant un peu ton histoire et tout. Et merci beaucoup de venir, c'est très intéressant. Et tu fais partie, comme je disais, de ces gens qui ont déjà entamé un travail sur l'argent depuis un petit moment. Donc ça m'intéresse vachement de voir un petit peu comment tu te positionnes, en sachant que jusque-là, les invités qui sont sortis, en tout cas, n'ont pas forcément fait ce travail-là. Donc c'est assez intéressant d'avoir un peu ton point de vue j'allais dire d'experte, mais en tout cas de personne qui a un peu... Non, mais qui a... T'as lu des bouquins, t'as beaucoup réfléchi, etc. etc. quoi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc tu t'appelles Ilan, c'est ça ?
Oui.
T'as quel âge ?
Oula, ça commence déjà.
C'est dur, hein ? Tu veux pas que je te pose cette question ?
Non, 44 ans.
Ok. C'est un très bel âge, tu sais, c'est mon âge.
Ah, ok.
C'est magnifique.
Super.
Et donc ouais, tu me racontais dans ce mail que tu as eu une carrière de cadre dans un grand groupe d'assurance, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et que tu t'es lancé à ton compte dans un tout autre domaine, c'est plutôt ça. Créatif,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
Il y a 3 ans ?
Il y a 3 ans.
Maintenant ?
Ouais, si tu veux, je t'en parle en quelques mots.
Ouais, vas-y.
Ouais. Donc effectivement, jusqu'à présent, enfin, je suis assez fière de ce parcours parce que j'ai eu un parcours que j'estime assez lisse, c'est-à-dire parcours scientifique, école de commerce, etc. Stage de fin d'études, hop, et puis direct CDI. Donc effectivement dans l'assurance. Après j'ai un peu bougé vers le consulting. Après je suis revenue dans un grand groupe et plutôt voilà un peu voilà cadre moyen. Enfin le truc un peu lisse, ouais, comme j'aime dire, sans histoire en réalité. J'ai même pas une grosse histoire de burn-out parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté en fait le salariat, soit parce qu'ils aimaient pas leur patron, soit burn-out ou quoi. Moi c'est même pas ça en fait. Je me demande même des fois pourquoi j'ai quitté.
C'est vrai?
Oui, oui. Enfin, je dis ça, mais si, je sais très bien. Et donc voilà, dans l'informatique, chef de projet, donc ça parle de quoi? C'est des fichiers Excel, des réunions, des PowerPoint, etc. Et aujourd'hui, je suis artiste en lettering, donc c'est de la calligraphie moderne. Donc ouais, c'est assez étonnant comme changement de carrière. J'ai fait un bilan de compétences, je pense que c'était à l'approche de la quarantaine, donc un truc quand même un peu classique par rapport aux gens qui changent de vie, on va dire.
La crise de la quarantaine.
Voilà. Bienvenue.
Qui n'existe pas, hein, je tiens à le dire. C'est une connerie.
Et puis la maternité. J'ai eu ma fille à 38 ans, je crois.
Oui,
donc voilà, il y a quand même deux paramètres importants. Donc c'était pas le burn-out, c'était. Mais voilà.
C'est une période qui.
Qui interroge.
Qui secoue un peu, voilà.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, après on va parler de l'histoire de la sécurité et tout. Moi, j'étais assez. J'étais tranquille parce que voilà, j'ai eu aucune période de chômage. J'ai toujours eu mon salaire tranquille à la fin du mois et tout. Mais par contre, j'ai économisé beaucoup. Alors, je sais pas trop pourquoi. Donc, profil écureuil, comme dirait Christian.
Ouais. Si vous avez jamais entendu, je vous invite à écouter le premier épisode d'Histoire d'argent. Justement, on parle d'argent avec Christian Junot, qui est un spécialiste du sujet de la relation à l'argent.
Et donc, j'ai quitté ma boîte en mode congé sabbatique. J'avais ce truc de la peur de manquer ou de... Enfin voilà, le congé sabbatique, ça permettait de revenir en arrière en cas de pépin. Et puis, ça permettait... Enfin, comme j'étais écureuil, j'avais quand même de quoi faire parce que souvent, on me dit, bah oui, mais congé sabbatique, tu tombes à zéro quand même. Donc, t'as pas de rupture conventionnelle, pas de chômage, etc. Donc moi, j'avais juste mon petit coussin de sécurité et congé sabbatique. Donc je suis partie un peu... je vais pas dire tranquille parce que quand même on se pose beaucoup de questions, etc. Et le pas à passer, il est quand même, faut quand même le faire. Mais je suis partie comme ça.
Ok, on va reparler de tout ton parcours, hein, et notamment de comment tu t'es lancée dans un congé sabbatique avec 0 euro par mois alors que t'es écureuil, c'est quand même particulier.
Oui. C'est ça, maintenant que je le dis, c'est vrai.
Je vois ça, je me dis, c'est quand même ok. Mais la première question que je pose, c'est autour de ta représentation de l'argent. En fait, quand je te dis argent, à quoi tu penses là tout de suite?
Ouais. Alors là tout de suite, je pense que je dirais plus la même chose que justement il y a quelques années. Aujourd'hui, je l'associe vraiment à projet et rêve. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sens que j'y mets derrière et pourquoi je sais que j'en veux, parce que j'en veux, c'est vraiment plein de rêves et plein de projets que je m'autorise à imaginer, alors que dans ma carrière de salarié, c'était vraiment le truc tranquille, vraiment la vie de tout le monde, avoir un toit, des loisirs, des vacances, enfin voilà. Alors qu'aujourd'hui, j'ai passé le step suivant, je vais dire, je m'autorise beaucoup plus de rêves.
Mais tu pouvais avoir des projets et des rêves en tant que salarié, en fait. Et puis il y a plein de salariés qui ont des projets et des rêves.
Ouais, bien sûr. J'avais l'impression je faisais pas le lien avec mes rêves. Enfin, je sais pas pourquoi.
Je me disais
qu'il fallait plus d'argent, peut-être. Ouais, c'est ça. Oui. Je me disais qu'il fallait plus d'argent pour ces rêves-là.
Mais alors, c'est quoi comme genre de rêve? T'achetais un yacht?
Non, alors non, moi, je suis pas trop sur les objets. Moi, c'était plutôt. Alors mon vrai grand rêve et tout, à part être chanteuse, parce que petite, je voulais être chanteuse. Mais là, du coup, c'est pas un rapport avec l'argent. C'est d'avoir une fondation.
Si ça
ouais. Enfin, non, mais petite, en tout cas, je faisais pas le lien. Je me disais plus, j'ai pas le talent pour. Enfin, c'était quand je me suis arrêtée de rêver à ça. Non, moi, mon rêve, c'est d'avoir une fondation, enfin, faire du mécénat d'artistes. Mais vraiment le gros truc, quoi. Hein. Aider les artistes à se développer, à se lancer, des choses comme ça. Et après, un autre grand rêve, donc là, plutôt familial, je pense que j'aurais pu le faire effectivement en tant que salarié, c'est d'avoir une maison avec jardin. Enfin, nous, on est dans notre trip un peu permaculture. Un peu gîte, un peu toujours accueillir des artistes. Mon mari et moi, on est très dans le truc artistique. Et tout ça, je me l'autorisais pas en tant que salarié, mais je pense que c'était aussi lié à mon quotidien qui était avec des informaticiens, des chefs de projet. Et j'éteignais la petite voix, et les artistes dans tout ça.
Ok. Voilà. Oui, t'avais un job qui était très tourné autour de. Du quotidien et de gérer des projets, en fait. Donc, t'es plus dans la gestion que dans la création, pour le coup.
Ouais, j'étais vraiment métro, boulot, dodo, et avec des horaires, et en fait, un truc tellement cadré et tellement confortable que, je m'autorisais pas.
Ok. Mais en plus, je me disais, c'est intéressant parce qu'avec ton profil d'écureuil, t'aurais pu, tu vois, très bien mettre beaucoup de sous de côté depuis, on va dire, 20 ans de carrière, quoi. Et pour finir par te dire, ok, bah, de ce fait-là, on part sur un projet qui est peut-être un peu plus d'un peu plus grande ampleur, mais c'est pas un truc qui t'avait, enfin, que t'avais connecté, quoi, à l'époque.
Non, mais je pense que parce que, alors j'étais écœurée, donc je vais te dire après combien j'avais mis de côté.
Ouais, on va en parler.
Mais je me disais pas, c'était vraiment le coussin de sécurité et pas pour faire quelque chose avec, en fait.
Ah, okay.
J'avais aucun projet de cet argent, sauf un peu vers la fin, vers la trentaine, où j'ai eu le projet de faire un tour du monde toute seule.
Ok.
Donc je l'ai jamais fait. Mais du coup, ça donnait quand même un sens à cet argent que j'accumulais. Parce que sinon, j'avais pas. En fait, j'avais déjà acheté mon appartement. J'ai acheté mon appartement en me lançant avec un petit. En me lançant, je veux dire. J'étais dans ma première année de boulot. D'habitude, on peut pas tout de suite. En première année de travail, hop, on achète un appart. Mais mes parents m'ont aidé. Eux-mêmes, je pense, étaient écureuils. Et du coup, voilà, avaient mis l'argent dans un PEL. Enfin, voilà, j'avais de quoi. Je pouvais déjà acheter mon appart. Donc. J'avais du coup pas ce projet qu'ont beaucoup de jeunes qui se lancent en disant « Ah bah oui, mon premier gros achat, ce sera un appart. » Et du coup, mais par contre, je continuais de mettre de côté. Je mettais pas de côté pour acheter cet appart. Je mettais pour au cas où.
Ok. Tu gagnais combien en tant que salarié? Sur la fin, en tout cas?
Sur la fin, c'était 3-4 000 par mois.
Net?
Voilà, on va dire 3 500 net.
Ok, d'accord. Et tu disais, je te dirais combien d'argent j'avais de côté. T'avais réussi à accumuler combien de sous de petits glands en tant qu'écureuil?
Ouais, ben je crois que j'avais pas loin de 150 000.
Ah ouais, ok. Oui, donc ça t'aurait permis de pouvoir.
Ton tour du monde.
De faire ton tour de 150 000 euros, tu peux faire un chouette tour
mais
du
oui,
monde.
Mais oui, c'est ça. Non, mais en fait, je m'étais dit tour du monde. Je m'étais dit, j'ai besoin de 50 000 par an pour vivre. Donc là, j'avais 3 ans de format, en fait.
C'est énorme.
Bah oui, mais j'avais même pas l'impression que c'était si énorme. C'est ça le truc de
ah
l'écureuil.
Ouais, c'est ma boule.
Ouais, c'est clair.
Parce que 3 ans devant toi, ça veut dire que tu peux rester 3 ans sans rentrer le moindre euro et que t'as encore de l'argent devant toi.
Mmh. Ouais.
C'est ouf.
Fou.
Tu t'en rends compte aujourd'hui ou pas?
Mais bah non, même pas en fait, je crois. Non, même pas. Parce que j'ai l'impression que c'est court. Bah là, tu vois, ma boîte, elle a 3 ans et j'ai l'impression que. Pas qu'il s'est rien passé, mais tu vois, enfin que ça passe super vite en fait. Donc pour moi, 3 ans, c'était même pas beaucoup devant moi. Je me rendais pas compte qu'en 3 ans, il pouvait se passer d'autres choses aussi.
Oui,
que je pouvais.
Tu peux créer tout vos plein de portes,
bah
tu
oui,
vas créer
mais
des
non,
connexions
non, je
qui vont.
Pas ça.
Ok. C'est quand même long, 3 ans, tu vois.
Mais oui, mais.
Long,
mais
c'est 3 ans où t'es dans la vie et que tu, et que tu crées des projets, forcément, c'est trop intéressant. Ok.
Ok.
Bon, on va reparler de tout ça, mais là, je voudrais revenir un peu à ton enfance.
Oui.
C'est quoi ton premier souvenir en rapport avec l'argent?
Ouais. Alors en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, je m'en suis souvenu ce matin. Alors c'est peut-être parce que je suis influencée, parce que je savais que j'allais te voir, parce que je me souviens que tu avais posé cette question aux autres et je me disais, oh là là, moi je suis le genre de personne qui a pas de souvenir d'enfance. Nanana, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi la bonne réponse?
Il n'y a pas de bonne
et,
réponse.
Je sais, mais tu vois, je quand même. Et en fait, c'est lié à ma fille encore. C'est la petite souris en fait. C'est la petite souris qui mettait une petite pièce sous l'oreiller. Et je me souviens de ça. Et je me souviens que j'étais déjà donc écureuil et que je gardais cet argent. Je mettais dans une petite boîte, je n'allais pas genre acheter des bonbons. Donc voilà, ça commence.
Tire-lire,
ça commence
quoi, c'est ça.
Peut-être que mes 150 000, en fait, ils datent des francs. C'était des francs et pas
des
euros.
Francs. Ça nous souvenez-vous,
ça
les jeunes.
Je n'ai pas.
C'était il y a longtemps, les francs. En francs français, à l'époque. Ok. Donc ouais, et tu avais tendance à garder ces sous-là.
Oui.
Okay.
Ouais, complètement. Et moi, j'étais pas dans une famille. Alors, de mémoire, j'avais pas trop d'argent de poche. C'était plutôt si j'avais envie d'acheter un truc, mes parents me l'achetaient, genre des fringues, ou si je devais sortir avec des amis et tout. Donc, j'avais pas une somme fixe, etc. Ou des fois, ils me donnaient, donc, pas lié à un événement particulier. S'ils voyaient que j'avais besoin, ils me donnaient. Mais
okay.
Sinon, j'ai pas ce truc de l'argent de poche et je pense que j'aurais mis de côté.
Ouais, à ce point-là, tu n'aurais rien dépensé du
tout.
C'est
drôle, hein, je sais vraiment pas. Hein. Et je me souviens de la tête de cette petite boîte, une boîte blanche en métal où je mettais mes sous dedans. Et je l'ai recompté, comme Picsou en fait. Ah oui, j'adorais Picsou quand j'étais petite.
Ah oui,
ouais.
Avec son coffre
ça,
à se baigner dans sa...
Oui, c'est ça, il se baignait dans des pièces. Ça a dû me marquer ce truc, je pense, ouais.
C'est intéressant. Tu disais que tes parents étaient écureuils, c'est ça? Enfin, ou sont,
oui.
sont peut-être oui, toujours.
Oui, sont, oui. Enfin, sont, je sais pas. Enfin, je veux dire, je n'ai pas réinterrogé leur rapport à l'argent, même si c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. J'y ai pensé. Il y a des exercices comme ça où il faut. où on nous demande, enfin dans les livres par exemple sur l'argent, où on nous dit ah bah interrogez votre famille, vos parents, nanana, sur l'argent, et j'ai pas encore osé le faire.
Ah t'as pas osé?
Ouais, je sais pas, je pense.
Parce que pour moi en plus ça fait vraiment partie du process. Hein.
Ouais. Ok. Je l'ai pas encore fait.
Non, c'est intéressant, ça, du coup qu'on en parle.
Ah oui, on peut. Ouais, c'est vrai, tiens.
Parce que
c'est
bon.
Intéressant. Ouais.
Non mais dans toutes mes interviews en fait, je parle en général du rapport, enfin parce que pour moi c'est un truc qui se lègue souvent inconsciemment en plus, donc c'est ça le pire, c'est que en fait tes parents te refilent leur petite valoche concernant l'argent sans même souvent s'en rendre compte. Et c'est intéressant que tu l'aies pas fait. T'as peur de les déranger?
Oui, alors après, c'est pas pour l'argent en particulier. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'arrive pas à parler avec mes parents.
Okay.
Enfin, de manière générale, on n'échange pas énormément sur des sujets sérieux où on va se poser. Parce que, en gros, avec mes parents, alors moi j'adore mes parents, enfin je suis très famille et tout. Donc j'ai deux frères et sœurs, juste pour situer dans la famille. Je suis au milieu, donc j'ai deux frères, un grand frère, une petite sœur et donc mes parents. Et on se voit toujours tous en fait. C'est toujours les réunions de famille, un repas de famille. Un peu moins maintenant, enfin, puis ces dernières années où les trois enfants sont grands, mais du coup, on se pose pas trop pour. Enfin voilà, ouais, j'ai pas ce réflexe en fait de dire ah, tiens, je vais les appeler ou je vais les voir et on va parler d'un sujet par exemple.
Ok.
J'ai pas ce truc. Mais ouais, si, je vais le faire. Bah, ça me remotive. Là, je défie, là, je le dis devant, je sais pas combien de personnes écoutent.
Des millions
ça. Non, mais en plus, c'est hyper intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui vont ressortir.
Mais c'est sûr.
C'est sûr.
C'est sûr et certain. Mais alors, ok. Mais tu t'es pas dit, tiens, justement, à l'époque où tu étais en train de lire des bouquins, etc., parce que justement, on en parlait, mais Christian Juneau, il parle beaucoup de ce. Il parle de ce fameux exercice de déloyauté, où t'as tendance à être loyal par rapport à tes parents dans ton rapport à l'argent, parce qu'en gros, ils t'ont refilé des trucs et toi, tu continues à perpétuer. Les mêmes réflexes quoi, mais toi tu t'es dit ok non en fait je vais pas profiter de ça justement pour casser un peu, et je comprends très bien les dynamiques de famille, on a à peu près, j'essaie de casser ça en ce moment dans ma propre famille, d'aller voir mes frères et sœurs individuellement par exemple, tu vois, alors que effectivement d'habitude on se retrouve tout le temps ensemble, voire même on va passer un week-end très bientôt à trois sans enfant, sans rien. On n'a jamais fait ça de notre vie depuis.
Trop
je crois
bien.
Même jamais en fait, parce qu'on s'est jamais. Enfin, tu vois, quand on était gamin, on se retrouvait pas à trois tous les trois. Jamais, je crois. On n'a jamais fait ça.
Ah oui, ah, génial. Ouais.
Ça va être intéressant. Mais ouais, tu t'en as pas profité quoi. Tu veux qu'on fasse une petite pause?
Non, ça va.
T'as du mal à parler.
Ouais. Non, t'inquiète.
La meuf vient faire un podcast et elle a du mal à parler. Qu'est-ce que ça vient bien vouloir dire?
C'est ça,
trop
ça.
Mais ouais, de ce fait-là, t'as pas.
Non.
Ok.
Non, je suis partie. Ouais, ce qui est bête dans la réflexion, je pense, d'hypothèses. Non, de. Pardon. D'hypothèses de ce qu'il m'avait légué, mais je l'aurais pas demandé directement.
Ok.
Mais on peut en parler si tu veux.
Ouais, je veux bien.
Alors, est-ce qu'ils étaient écureuils déjà, et eux, leur rapport à l'argent, du coup, de mon point de vue?
Oui, bien sûr.
Parce que je ne les ai pas interrogés. Donc mon père était banquier, donc dans l'argent.
Génial. Ok.
Et ma mère était dans l'édition. Alors après, mes parents parlaient pas tant que ça de leur métier ou de leur quotidien. Donc je sais pas. Enfin, je sais que mon père était économiste, mais voilà, je sais pas vraiment son quotidien, son travail vraiment en quoi ça consistait. Je sais juste qu'il était au siège et que voilà, il faisait plutôt des études, je crois. Et donc ma mère plutôt littéraire. Et du coup, j'ai bien aimé le fait que voilà qu'il soit dans deux domaines très différents, parce que je me suis toujours trouvée assez équilibrée entre science et littérature, même si après j'ai fait une voie scientifique, parce que voilà, quand t'es bon à l'école, on te dit va faire des maths.
Ouais.
Donc voilà, mais du coup j'ai ces deux aspects dans ma vie. Et par rapport au rapport à l'argent, donc eux sont donc moi je suis d'origine vietnamienne, eux sont arrivés en France dans la fin des années 60. Pour leurs études. Donc nous, on n'a pas cette histoire. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, je dis, on culpabilise un peu de ce truc-là. On n'a pas une histoire dure de, voilà, boat people ou de réfugiés politiques ou de choses comme ça. C'est vraiment, enfin moi c'est la vision en tout cas qui m'ont en plus transmise, je pense, de ouais, on arrive à la cool en France pour nos études. Bon, je dis pas c'était facile, ils ont venu avec zéro et tout
bien
ça.
Bien sûr.
Hein. Mais voilà, pour faire nos études, je crois même
plus facile que des gens qui effectivement seraient venus
avec une histoire dure et tout. Mais donc ils viennent pour leurs études.
Tu dis que tu culpabilises?
Bah oui, parce que ouais, c'est là on va changer d'histoire.
Mais non, parce qu'en fait, mais pour moi ça fait pas.
Oui,
tu vois,
vrai.
Tout est ça très intégré
ouais,
en fait. Hein.
Ouais, je culpabilise d'avoir une histoire légère et facile.
Okay.
Et je pense que c'est peut-être ça. Alors j'ai peut-être peur d'interroger mes parents parce que peut-être derrière en fait, il y a peut-être des choses plus dures que ce que je pense et que ce qu'ils m'ont montré en façade.
Ah,
j'en sais rien en fait. Hein.
Oui,
là, je suis dans des hypothèses.
Non, tu veux dire oui, tu veux dire qu'il y a peut-être des blessures passées.
Ouais, c'est ça. Donc,
qu'ils ont pu vivre et
ouais.
Dont ils vous ont jamais voulu vraiment vous parler ou dont ils vous ont voulu vous épargner, quoi. C'est une possibilité.
Après, comme ils sont venus jeunes, je pense pas. Après, peut-être leur famille, comme bah, mon père par exemple, est le plus jeune de sa famille et les autres sont restés au pays. Ils sont, eux, pour le coup, ont quitté le pays plus tard et donc avec des histoires plus dures. Voilà, mais c'est de ce côté-là que okay. Je ne connais pas moi, enfin que voilà, je n'ai pas vécu, j'ai pas l'histoire, j'ai pas voilà.
C'est donc, fou quand même hein, parce que
ouais.
C'est pas enfin tu vois du tout un reproche, mais c'est fou en fait à quel point on a du mal à aller interroger nos parents pour connaître notre propre histoire et leur propre histoire qui finit par
oui, qui de toute façon
par refléter sur nous d'une,
ouais,
bah d'une ouais. manière ou d'une autre quoi.
Ouais, et là je pense que comme on parlait là de enfin je parlais de maternité, je pense que il y a un moment aussi où je vais avoir ce besoin-là pour transmettre à ma fille.
Oui.
Et du coup, je vais pas y couper en quelque sorte.
Ouais, c'est sûr.
Que, voilà.
Tu lui enverras ce podcast. Tiens, pour connaître mon histoire. Allez, hop, salut.
Ah, oui. C'est pas mal ça. J'y pense. Des fois, je me dis, ah, je vais écrire un livre familial et comme ça, j'aurai l'excuse d'aller interroger les gens. Mais
ah,
ouais,
okay.
J'ai besoin d'un truc.
Okay, okay.
Je n'arrive pas à y aller juste. Tiens, et si on parlait d'argent?
Ouais, c'est
et
génial.
Si on parlait de la famille.
Ok.
Donc pour revenir aux écureuils, est-ce que du coup eux ont eu ce truc? Alors, je trouve qu'ils ont eu plutôt une gestion de l'argent assez équilibrée dans le sens où bon bah on manquait de rien, donc tous les deux étaient plutôt cadres, voilà, donc on a eu une vie, une belle vie facile, on va dire aussi. Donc pas de problème d'argent, pas de souvenirs par exemple de frustration, par exemple qu'on me refuse un jouet ou qu'on voilà. J'avais à peu près ce que je voulais, bon si c'était déraisonnable peut-être voilà, ils pouvaient dire non aussi quoi. On partait en vacances, on faisait des beaux voyages, tu vois, genre croisière à l'étranger, enfin des trucs plutôt sympas.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du coup, j'ai pas eu cette impression qu'ils étaient si écureuils que ça, mais je sais, enfin, en même temps, bah, ils gagnaient bien leur vie et je voyais bien qu'on avait, enfin, comment dire, ouais, qu'on n'avait pas de problème d'argent. Enfin, je sentais bien qu'ils mettaient quand même de côté. Je sais pas te dire pourquoi, en fait, mais.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Mais il y a peut-être aussi une peur de manquer. Enfin, tu vois, pour moi,
oui,
ça
voilà.
Va souvent
après,
de là, quoi,
voilà,
tu
c'est
vois.
Ça. Après, moi, de l'image qu'ils m'ont donnée, ils partaient tous les deux de zéro, parce qu'ils ne sont pas partis, il me semble pas, avec un pécule bah, du ouais. pays ou leurs parents ou quoi que ce soit. Et donc, ils ont fait des bonnes études, ils ont fait un parcours lisse comme le mien. Donc ça, pour le coup, j'ai peut-être répété. Et ils ont tout de suite plutôt bien gagné leur vie. Peut-être ma mère un peu moins au début. Enfin, j'ai plus de connaissances de galères de ma mère avec ses sœurs et des débuts comme ça où elle devait faire des petits jobs. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de petits jobs. Tu vois, je suis écureuil, mais je me suis jamais dit « Ah, je vais mettre encore plus en faisant des petits jobs l'été ou quoi ». Là, par contre, non, j'étais plutôt profil les vacances et les vacances, quoi. Donc, et comme j'avais pas de besoin, parce que je pense que les jeunes qui font des jobs d'été, c'est pour se payer des trucs. Comme moi, j'avais pas de besoin de me payer des trucs. Bon, finalement, je pense que mon premier stage, c'était mon stage d'école de commerce, quoi.
Ok.
Tu vois. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire sur eux, leur rapport à l'argent ou ce qu'ils m'ont légué? Alors après, par rapport à la loyauté, je pense qu'il y a, si, un truc qu'ils m'ont légué, et ça c'est très asiatique, c'est le coup du bon diplôme égale bon job égale bon salaire, enfin voilà. Donc ce truc-là du, Christian Junot en parlait, il faut mériter, enfin il faut travailler, donc tout ce qui est autour du travail et le retour du travail qui est l'argent, ça oui, je pense que ouais. Ça a bien été légué. et ah, d'ailleurs, je déconstruis ça en étant entrepreneur. C'est-à-dire ouais. J'essaie vraiment de ne plus lier déjà le temps passé au travail et le fait de mériter. C'est-à-dire, j'ai vraiment le droit de kiffer ma vie, tu vois, ouais. Et de kiffer mon travail.
Et de gagner de l'argent.
Et de gagner de l'argent.
Parce que ça va avec.
Ça va, c'est ça.
Sans être obligé de travailler 95 heures par semaine.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Exactement. Okay.
C'est aussi, je crois, un truc, mais je verrai au fil du temps, avec au plus j'aurai d'interviews, au plus oui. Je vais pouvoir aussi créer oui. Un truc, mais je crois que c'est aussi un truc, tu vois, d'immigrer, tu vois, de se dire à un moment donné, ok, en fait, on est venu là, et il y a un moment donné où si on veut que ça marche, il faut qu'on fasse d'autant ouais. Plus de travail que
ouais. Et
pour
aussi,
mériter, quoi, tu
et
vois.
Et pour aussi être intégré. Il y a la ouais. Question de l'intégration, il y a la question de la langue, mais je ne parle pas le vietnamien. Donc okay. Tout de suite, mes parents ont parlé français. Il y avait vraiment ce côté de on est intégré, on fait pas de vagues, on travaille super bien, on est discret. Enfin, j'aime pas trop dire tous ces trucs parce que je trouve que c'est très lié au cliché lié aux Asiatiques.
Ouais, mais bon, c'est mais voilà, une réalité,
c'est ce
quoi.
Qu'on a vécu.
C'est pas,
et mes parents n'ont pas de restaurant. Je précise, dans le 13e, non.
Mais c'est pas parce que c'est un cliché. C'est pas parce que c'est un cliché que c'est pas ta réalité,
non,
quoi.
Mais...
Les clichés viennent souvent de toute façon d'une réalité, quoi, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est terrible. Après, effectivement, c'est intéressant d'entendre ton parcours. Donc, tu fais ton école de commerce, tu sors de ton école de commerce et tu te dis, bah, je vais aller gagner, enfin, je vais rentrer dans un groupe pour pouvoir avoir un CDI.
Voilà, pour moi, c'est tout le truc normal. En plus, mes deux parents sont salariés dans des grands groupes. Je connaissais même pas d'autres voies possibles. Et puis à l'école, on nous parle pas vraiment d'entrepreneuriat.
Ouais.
Et même dans les écoles de commerce, pourtant, en plus, ils appellent ça plutôt école de management maintenant. C'est-à-dire qu'ils veulent, parce que c'est pas école de commerce, genre je vais faire de la vente. C'est de la gestion et tout ça. On fait quand même des matières, voilà, comptabilité, marketing ou quoi, qui sont utiles pour des entrepreneurs, par exemple. Et on a les fameuses, je sais plus comment ça s'appelle, dans les associations de grandes écoles, oui. On nous fait faire ouais. Des travaux dans je trouve plus mes mots, mais la petite entreprise ouais,
la junior entreprise.
Ah, voilà, c'est ça. La junior entreprise. Je ne savais plus comment ça s'appelait. Et j'ai jamais été d'ailleurs dans ces associations. Moi, c'était plutôt l'association manga, tu vois. Voilà, la junior entreprise, non, je joue.
C'était les mangas avant que ça soit la mode, les enfants.
Voilà, moi je suis bah, oui. Précurseur. Toujours.
ok, mais donc, t'as fait quelle école?
Alors, elle s'appelle plus comme ça, c'est INT Management, okay. C'est un truc télécom, à la fois école de commerce et télécom, où
donc,
ils mixent.
Informatique, c'est ça?
Ouais, voilà, il y a okay. Quand même cette forte image informatique, système d'information, tout ça, donc assez classique, quoi. J'ai fait la spécialisation en système d'information, le stage là-dedans, et puis je suis partie plutôt dans l'informatique, ouais.
D'accord. T'es allé dans l'informatique parce que ça te plaisait ou parce que tu te disais qu'il y aurait des débouchés et qu'il y aurait du travail?
Pardon, je te coupe.
Non, mais...
non, pas du tout. Non, ça me plaisait pas du tout. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas trop ce qui me plaisait. Comme okay. J'avais, si tu veux, on pourra creuser le truc de l'artistique parce que je pense qu'on va arriver.
On va y arriver, oui.
Comme je ne savais pas ce que j'aimais, même, en fait, j'ai jamais trop choisi ma voie dans mes études. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais bonne élève, mais un peu dans tout. Bonne élève, mais plutôt bonne moyenne. C'est un truc un peu bâtard du coup, parce que t'as pas un truc dans lequel, ah oui, elle a la bosse des maths, ou elle est littéraire. Bon, donc, prépa HEC, c'était le plus large, école de commerce, le plus large, pour après pouvoir choisir, soi-disant. Sauf que comme je savais pas ce que je voulais faire, en fait, quand tu veux choisir, il faut avoir des choix.
Ouais.
Donc là, non, l'informatique, parce que soit je suivais des camarades d'école, tu vois, j'en étais encore là à 18-20 ans, tu vois, à suivre, je fais la même option que mon okay. copain ou que ma copine, tu vois, comme les élèves en primaire ou au lycée, tu vois.
C'est marrant.
Ah, tu fais sciences nat, ok, je vais faire sciences nat. Donc là, tu fais contrôle de gestion, parce que moi j'ai fait INT et dauphine.
Ok. Oui,
parce que toujours travailleuse, machin, écureuil
oui.
Et travailleuse.
Ah oui, tu faisais en même temps
donc,
deux
diplôme,
parcours.
Il y avait un double diplôme, donc contrôle de gestion à dauphine, système d'information dans l'école. Et en sortant, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai postulé dans... C'était chez AXA. C'était chouette parce que c'était un... Enfin, je ne savais pas trop à l'époque, mais c'était une équipe qui se créait. Donc en fait, ils prenaient une stagiaire de fin d'études. Mais en fait, à la fin, ça a été une embauche, okay, mais sur une équipe qui se créait. Donc quelque part, je pense, j'ai toujours été dans des trucs qui se créaient. Ça, c'était chouette pour moi parce que je ne savais pas encore que j'aimais la création, mais voilà.
Oui, il y avait un peu une émulation où tu pouvais, oui, participer à la création,
ah ouais,
du truc en même temps.
Ah ouais,
quoi.
Ouais, ça, c'était vraiment très chouette.
D'accord. Donc tu... Enfin, je sais pas, en fait, tu gagnes combien à l'époque quand tu rentres? T'as la sensation que c'est bon pour toi?
Alors,
t'es,
oui,
au top?
Alors, voilà,
c'est ça,
je m'étais renseignée. Donc, moi, toujours dans la moyenne, hein, on ne fait pas de vagues. Donc, je connaissais le salaire de sortie. Alors là, j'ai plus trop les chiffres en tête parce que c'était en francs. Hein, désolée, oui. Du coup, c'est compliqué de faire le parallèle parce qu'on ne se souvient plus en fait, des ordres de grandeur en francs. Ouais. Donc, je suis sortie vraiment, le salaire moyen. J'avais demandé à mes camarades, ouais, toi, t'es embauché à combien? Toi, t'es embauché à combien? Et puis, du coup, j'ai demandé ça et je l'ai eu. Moi, je suis pas trop à négocier. Quand voilà, on m'a dit ce chiffre me convenait, je l'ai pris. Mais j'ai plus l'ordre de grandeur. Il faudrait que je retrouve.
Ok.
Mais c'était le salaire normal quand tu sors de bac plus 5 chez AXA, voilà, dans les grilles, quoi.
D'accord. Comment tu vis ces premières années de boulot avec un salaire qui tombe, machin, ou...
Alors, je le vis. Alors, oh, c'est loin.
T'es d'ores et déjà écureuil. Bah oui, on est vieux.
Alors, je suis toujours écureuil, donc ça ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, je le vis bien. Je suis pas non plus à trop. Je mets de côté, mais je sais dépenser. Alors, ça, c'est aussi un message que mon père me disait souvent. Il voulait pas, il trouvait que c'était pas bien d'être dans les extrêmes, c'est-à-dire que il nous incitait, enfin quand on a mes frères et sœurs et moi, quand on est arrivé dans le marché du travail, il disait oui, c'est bien, faut mettre de côté, mais il faut aussi faut dépenser, faut utiliser son argent. Donc il nous incitait à, je sais pas, je dis n'importe, hein, acheter des vêtements ou partir en voyage ou faire des choses. Donc moi, bon, j'étais quelqu'un d'assez sociable, j'avais des amis, on faisait des choses ensemble et tout, donc voilà, j'ai un souvenir assez encore assez lisse, assez tranquille de mes premières années. J'avais pas de gros projets, vu que j'avais déjà mon appart. Le boulot se passait plutôt bien. Moi, dans le monde en entreprise, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu des super managers. Je leur fais un petit coucou. mais vraiment, hein, parce que je suis encore en contact avec eux. Hein, pour te dire, mon premier manager, celui de mon premier stage. Cette semaine, je lui écrivais sur LinkedIn pour lui dire ah, tu deviens quoi et tout, ça va, ça boum, enfin vraiment. Et tous mes managers, j'en ai un bon souvenir. J'ai changé assez souvent pour ne pas m'ennuyer, parce qu'il y a aussi cette problématique, donc, je trouve, dans le salariat et tout, de toujours faire la même chose. En plus, moi, je me suis assez spécialisée dans des trucs assez pointus en informatique. Et donc, j'apprenais. Moi, ce qui me va, c'est bonne ambiance au travail et apprendre. Voilà, et donc en fait, j'ai un bon souvenir.
D'accord.
De toutes mes années de salariat.
Ok. Comment t'en viens alors à te dire un jour, tiens, je quitte tout, je prends un congé sabbatique?
Ouais.
C'est étonnant en fait, comme parce que le truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'effectivement, à l'époque, comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneuriat dans les écoles de commerce. Je crois qu'aujourd'hui, ça a un peu changé.
Oui, je pense aussi.
Mais c'est vrai que de ce fait-là, on n'a pas été élevé dans cette culture de « tu peux créer ton propre job », qui pour moi est arrivé beaucoup plus tard. Et notamment, je crois qu'on peut remercier Nicolas Sarkozy. Bon, c'est étonnant de ma part, mais il fait partie de... Il a promulgué une loi comme quoi, quand tu étais chômeur, tu pouvais créer ta boîte et tu perdais pas tes allocations chômage. Avant ça, tu créais ta boîte.
D'accord, je datais pas ça.
On te sucrait direct en quelques instants.
Oui,
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a tant de gens qui créent leur boîte, en tout cas qui donnent l'opportunité.
Ouais.
Bah voilà, Pôle emploi est le premier investisseur de start-up et de boîte, etc. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et je crois que ça a vraiment permis à plein d'entrepreneurs de se donner cette possibilité là, cette opportunité là, quoi. Mais donc toi, effectivement, t'as pas fait partie de cette génération là. Qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné, ok, moi j'ai envie de partir dans l'entrepreneuriat et surtout de creuser un peu ta fibre créative, quoi.
Ouais, ok, je vais expliquer ça. Alors, en fait, donc pendant mes années de salariat, pareil, j'ai bien choisi mes jobs parce que j'ai plutôt pris des grands groupes où il y a beaucoup de RTT, des horaires, on va dire, assez à la cool. Je ne nomme pas les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, sinon les pauvres, ils me disent, ah, mais en fait, elle bossait pas, la fille. Et en fait, j'ai toujours bien profité des, tu sais, genre, comités d'entreprise, où on pouvait faire des activités le midi, on pouvait faire, donc, en fait, moi, j'ai toujours nourri ma fibre créative par énormément d'activités. Mais à un point, c'était même dingue, j'ai une très grande période de célibat où tous les soirs, j'avais une activité. Genre, lundi, chorale de gospel, mardi, cours de derbouka, mercredi, cours de danse, jeudi, bon, etc., etc.
Tu t'en rendais compte, en fait, que tu avais besoin de ça pour te nourrir à l'époque ou tu le faisais de façon un peu automatique?
Je le faisais de façon automatique.
Okay.
J'étais connue comme ça, quoi, la fille qui a des activités à côté.
Okay.
Donc, parce que je suis aussi donc, photographe, chanteuse, je dessinais, je dansais, enfin voilà. Et donc ça allait, j'avais trouvé en fait mon équilibre. Boulot, amis, loisirs créatifs, voyage. Donc
okay.
C'était ça ma vie. Jusqu'à ce que, alors la fameuse naissance de... Alors bon, donc aussi la rencontre avec
un papa.
Mon, voilà, la rencontre
c'est une bonne
avec
idée.
Mon amour. Donc ça va à peu près. Parce que c'est dur de... Non mais c'est dur de caser un petit copain
dans
une vie très... voilà. Mmh. Donc, mais je gérais. Je suis très organisée. Donc ça allait, on arrive à se voir quand même entre deux activités.
Ce qui est une bonne chose pour, pour créer un
construire,
couple.
Pour construire, voilà, c'est ça. Et je pense que voilà, la naissance de ma fille, alors là, c'est là où, ça commence à être compliqué. Alors, non, si, j'ai fait une anecdote amusante. Avant la naissance de ma fille, donc avec mon ami qui est mon mari aujourd'hui, j'ai fait j'adore appeler ça un burn-out de loisirs.
Okay.
C'est-à-dire qu'à un moment, alors c'est peut-être pas le bon mot parce qu'en fait, je sais pas, le burn-out c'est un truc un peu entre guillemets un peu grave.
Et puis c'est médical surtout, on comprend un peu l'idée quoi.
Mais voilà, c'est-à-dire que quand même un jour, je n'ai pas voulu aller à mon cours de chant et j'ai pleuré, tu vois.
Okay.
Quand même pour dire non, je peux pas y aller, j'ai pas travaillé, la prof elle va me gronder, enfin j'ai pas le niveau pour faire le cours et tout. En fait, je me suis dit non mais en fait j'ai trop d'activités, j'arrive même plus à assurer. Parce que je cherche un certain niveau en fait dans mes activités, je bosse, tu vois. Et c'est drôle ça, parce que maintenant, en te le disant, je me dis c'était pas de la détente pour moi, j'avais besoin juste de créer, c'était plus fort que moi, il fallait que je crée, il fallait que j'ai un niveau. Enfin,
fallait performer.
Voilà, fallait performer, ouais, c'est ça. Donc c'est pas juste je vais chanter, je me détends et s'il se passe rien, non, c'est voilà, je prépare le concert de fin d'année, fallait que ça soit bien. Donc voilà, donc là j'ai craqué, puis j'ai commencé à me désinscrire des activités. Et donc après, donc j'enchaîne sur la naissance de ma fille, où là quand même, je m'ennuyais un peu, j'ai pris des cours de guitare pendant qu'elle était, j'étais en congé maternité là, et puis je me souviens de ma petite qui est sur
lui
son transat,
un
et que
d'un
le
côté.
Guitariste, ouais, que, en plus j'allaitais, donc je me disais, non mais oh, je vais pas interrompre mon cours de guitare parce que j'allaitais, alors fallait qu'elle boive avant le cours de guitare, le prof arrivait, j'avais une heure de guitare, fallait pas qu'elle pleure, enfin bon tu vois, donc j'étais quand même encore dans ce truc de...
Mais, de performance quoi.
Ouais c'est ça. Après, j'avais que le cours de guitare, hein. J'avais pas un truc tous les soirs. Mmh. Et puis là, il y a un moment où je me suis posée, où je voyais que j'arrivais plus à faire donc à la fois le boulot, parce que quand même, bon, c'est quand même cadre sup informatif, hein, faut quand même faire des choses, hein. Je dis que je travaillais pas beaucoup, mais voilà, quand même.
Oui, j'imagine que tu faisais le taf, mais c'est juste que t'en rajoutais pas.
Ouais. Oui, voilà, je travaillais pas le week-end, je travaillais pas le soir, je ramenais pas mon ordi à la maison. Ça, c'était
okay.
Très clair. Voilà, ma fille bébé, je me disais, alors déjà, question numéro 1, est-ce que je veux faire ce job jusqu'à la fin de ma vie? Question numéro 2, comment je fais pour mon emploi du temps entre un enfant, un mari, un boulot et les loisirs, enfin les loisirs créatifs, hein, la créativité. Bon, ça rentrait plus en fait, j'arrivais plus, par exemple j'avais quitté mon groupe de musique où je chantais, je faisais plus d'expo photo. Voilà, j'avais plus de projets créatifs, de concerts, d'expos. Normalement, j'ai toujours un truc. Donc voilà. Donc j'ai fait un bilan de compétences par Switch Collective. C'est un truc où tu peux faire le bilan, mais pas que sur les compétences, vraiment aussi t'interroger sur ton pourquoi, ta vie, machin. Tu sais, ils te font tes profils psychologiques et tous ces trucs. Donc 2017, là, ma fille a 2 ans. Ouais. Et 2017, c'était donc novembre 2017, je quitte Switch Collective, je pose mon congé sabbatique. Voilà, c'était décidé.
Ok.
Et donc, je quittais pour être photographe.
Est-ce que tu peux...
Ah, pardon, ouais. Je quittais pour être photographe. Parce que c'était l'activité qui était la plus professionnalisée dans toutes les activités que je faisais.
Mais alors, attends, je voudrais te faire parler de... Tu décides de poser un congé sabbatique.
Ouais.
Ce qui est quand même particulier.
Oui.
C'est que tu décides pas, tu pars pas du principe que tu vas aller demander une rupture conventionnelle et que tu vas te mettre au chômage et qu'en fait tu auras devant toi 2 ans de chômage, quoi. Non, tu gardes quand même ta sécurité.
Ouais, ouais, c'est ça. Sécurité avant tout. Ouais. Non, j'étais flippée quand même.
T'étais flippée de...
De pas réussir. En fait, je savais pas tant que ça. Je disais donc je quitte pour être photographe, mais je pense qu'au fond de moi, je me disais je vais pas réussir à en vivre.
Ok.
Donc je partais un peu perdue d'avance. Je sais pas, enfin au fond de moi, avec le recul, hein, disons. Parce que non, sur le moment, j'étais là, je deviendrais la meilleure photographe internationale du monde, machin. Mais non, j'étais vraiment flippée. J'avais l'argent donc de mon tour du monde, et plus même, puisque 3 ans pour moi. je pense que je voulais aussi rassurer mon entourage. Je pense qu'il... Ouais, je me disais qu'ils auraient moins peur si je posais un congé sabbatique, parce qu'ils m'entendaient beaucoup dire « je vais poser un congé sabbatique pour mon voyage, tour du monde ». Pareil, hein, pour le tour du monde, c'était vraiment un congé sabbatique. C'était pas « je démissionne, je fais mon tour du monde et je trouve un autre job après ». Parce que je pense que j'avais peur de... Pourtant, bon, voilà, avec mon parcours, mes diplômes, tout ça, j'aurais trouvé un boulot. Mais je pense que j'ai aussi cette peur-là de pas trouver de job. Voilà.
Oui, parce que je crois que on cherche des chefs de projet dans le domaine informatique.
Ah ouais, tu crois?
Je crois que c'est un truc.
Okay.
J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Internet. Enfin, tu vois.
Ah, oui.
Et tu peux créer des applications, etc. Bref. Et donc, il y a besoin de gens pour gérer des projets informatiques.
Ah oui, étonnant.
Qui vont. Je sais pas si t'en as entendu parler. Je te rencarde au cas où. Hein.
Ouais, d'accord. Au cas où, je
regarde pour voir.
Ouais.
Ok, donc tu.
Donc ouais, congé sabbatique.
Tu te lances dans ce congé sabbatique. Et d'un autre côté, il y a un peu ce truc qui m'interroge, c'est effectivement, tu te retrouves avec 0 €. C'est-à-dire que tu rentres plus d'argent. Et donc, l'écureuil, il va commencer à venir taper dans sa réserve. Non,
c'est
mais
ça.
C'est vrai.
Ouais.
Comment tu
Alors,
le vis à l'époque?
Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé. J'avais dit, tu sais, que j'étais devenue propriétaire. Dès l'entrée dans le monde du travail. Donc en fait, quand je me suis mis avec mon mari, on a trouvé un appart ensemble, on a acheté ensemble, et j'avais encore mon premier appart. Donc en fait, je tombais pas à zéro, j'avais un petit revenu de locatif. Je le loue en meublé, en fait, et okay. Voilà. Donc j'avais, à peu près 1000-1200 par mois.
Ok. Et t'avais déjà terminé de payer...
Terminé de payer,
De payer cet appart, quoi.
Ouais.
Okay.
Bon, c'est pas, tu vois, c'est pas un salaire, quoi, quand même, mais ça rassurait suffisamment l'écureuil, je dirais, qui a quand même 3 ans.
3 ans devant lui. Donc si tu rajoutes quand même 1 000 € par mois, ça fait sans doute encore plus que 3 ans de ce fait-là.
Ah oui, c'est vrai. Tu vois, je sais plus compter, moi. Non, j'ai besoin d'être rassurée.
Ok. De ce fait-là... Ça va, t'as pas trop de soucis de te dire, ok, j'y vais et je vais venir taper dans cette réserve pendant ce temps de congé sabbatique.
Ouais,
t'es ok avec l'idée.
Une fois, ouais, c'est ça.
Qu'est-ce
qui
te fait switcher aussi, en fait, de te dire, ok, maintenant il est peut-être temps de vivre le truc que j'ai envie de vivre et de venir taper dans cet argent, quoi.
Ouais, déjà parce que comme avec mon mari et ma fille, j'avais plus le projet du tour du monde, je me disais, cet argent, autant qu'il sert. Enfin, il avait déjà une destination. Donc, quelque part, dans ma
t'avais
tête,
mis c'était
logique.
T'avais mis de côté, pardon, ce...
Ouais, c'était oui, pour le tour du monde.
Pour le tour... Non, mais je... Non, t'avais mis de côté cette idée de tour du monde, c'est ça?
Ah oui. Ouais, je l'avais mis de côté entre-temps, ouais.
Ok,
ouais.
Ça t'intéressait plus?
Ça m'intéressait plus. Même maintenant, tu vois, j'y pense beaucoup moins. Enfin, j'y pense sous d'autres formes, un peu, pour rencontrer des créatifs, des choses comme ça. Mais du coup, c'est plus en mode voyage. Et puis... Maintenant, avec ma conscience écologique qui s'est réveillée depuis, je suis plus du tout dans les trucs en avion et tout. Donc du coup, ça prendrait d'autres formes. Enfin voilà.
Du train, du cargo.
Ouais, c'est ça.
C'est un poil plus long.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Mais j'ai quand même un peu mis de côté. J'ai l'impression ce truc-là, il ressort moins quoi.
Ok.
Donc voilà. Donc je quitte. Donc on est fin 2017. Ouais, c'est ça. Non. Oui, c'est ça. Donc, je pose mon congé sabbatique. Donc, mars 2018, avec les 3 mois de préavis, je quitte. Alors oui, quand même, il y a un truc qu'il faut que je dise dans ma boîte. Alors, ça, c'est l'avantage des grands groupes. C'est que j'ai été accompagnée sur la fin de... Sur mes 3 mois, là, où je quittais, par un gars. Il y avait une petite cellule. C'est pas très connu. Hein, je sais plus comment je l'ai trouvé. Une petite cellule d'aide à la création d'entreprise au sein même de la boîte. Donc, un gars qui m'a accompagnée, qui m'a aidée à faire... une demande d'aide financière, je sais plus comment ils appellent ça, et je suis partie avec quand même genre 10 000 ou 12 000 € quoi de mon job. Donc c'était bien pour le petit écureuil qui disait, oh, et en plus, j'ai une petite enveloppe là.
Ce qui fait donc plus de 3 ans, pardon. Comme d'habitude. On est toujours sûr. Plus ça va, plus j'ai l'impression que 3 ans et demi, 4 ans.
Ouais, c'est bien. Ça, l'argent arrive. En fait. Moi, j'ai l'abondance.
L'argent c'est tombe. Ok. Et c'est quoi l'étape d'après alors, dans ton parcours ?
Donc, l'étape d'après, c'était donc fameux voilà, photographe. Donc, je commence à essayer d'activer mes réseaux. Donc, avant, j'avais un blog, plus ou moins blog mode, beauté, etc. Ouais, j'en ai pas parlé, ça faisait partie de mes grosses activités
à l'époque. Ah, mais c'est fou, ça. Okay.
Ouais, ouais. Donc, blog
donc,
mode, beauté.
Aspect
du
créatif,
coup,
quoi. Vraiment,
ouais.
Ok.
Ouais, et du coup, mais c'était un petit blog, c'est toujours dans la moyenne, moi. Donc, j'étais pas influenceuse. Alors, en plus, j'étais quand même précurseur. Enfin, tu vois, 2010, enfin, pas précurseur, mais tu sais, 2018. Il y a des blogs, mais c'est pas comme aujourd'hui. Il y a pas, c'est pas le terme influenceur, par exemple, n'existait pas en 2018. Donc moi j'avais mon petit blog et du coup j'étais en relation avec des agences de presse et tout. Puis j'avais quand j'avais présenté mon dossier pour avoir mon aide financière là, j'avais dit ça, j'avais dit ah ouais moi j'ai du réseau et tout. Donc j'ai soi-disant activé mon réseau. Bon, personne n'était intéressé. Je m'étais déjà dit oui je vais commencer par faire photographe pour les soirées influenceurs, enfin les soirées blog sur Paris, ça existait déjà et tout. Zéro réponse, bon ok, j'ai quelques missions comme ça, et en fait bah ça me plaît pas. Je veux pas être photographe comme ça, parce que je m'étais dit, alors moi je suis photographe plutôt spécialisée photo de scène, photo de concert, vu que j'aime la danse et la musique, et je me voyais pas couvrir des festivals, t'es payé 3 francs 6 sous, donc ça n'allait pas, donc je m'étais mis, je vais être photographe corporate, mais en fait quand t'es artiste, non, photographe corporate, mais quelle idée. Couvrir des événements plutôt, voilà... Donc finalement non. Et donc au bout de,
t'aurais pu faire ça pour gagner de l'argent et d'avoir d'autres projets à côté. Quoi.
Oui, j'aurais pu. Mais bon, voilà, j'avais pas quitté pour ça. Je sentais qu'il y avait autre chose. Donc je me suis inscrite à une formation en ligne sur le blogging qui aide en fait à te construire ton blog, construire une communauté et vendre un produit en ligne à cette communauté. Ça c'est le parcours. Donc moi, bon élève, je suis vraiment le parcours.
Mais en 2018, il y avait toujours des blogs.
Ah oui. Okay, ouais, si. Et même aujourd'hui, hein, le gars, il continue à vendre cette formation-là. Hein.
D'accord.
Donc, ouais, le blog n'est pas mort. Bah, en fait, tant que Google
continue
à référencer, en fait, tu cherches des mots-clés. Et tant qu'on n'est pas passé à autre chose que cette façon-là de rechercher, tu tombes quand même sur des blogs. Donc, en septembre 2018, je lance mon premier blog qui est sur le lettering. Donc là, on arrive à mon métier actuel. Alors, pourquoi le lettering ? Puisque pourquoi pas la photo, pourquoi pas la musique, vu que c'est tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure. Bah, je pense que c'est parce que j'aime bien créer de zéro ou je sais pas, trouver aussi un truc un peu niché. Hein, parce que je me suis dit, si je fais un blog sur la photo, à mon avis, il y en a quand même beaucoup. Enfin, j'avais quand même fait une petite étude de marché vite fait sur Internet. Quand tu tapes lettering, t'inquiète, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, hop, un blog sur le lettering, je déroule la formation, donc il faut faire plein de trucs, hein. Un article par semaine minimum, de plus de tant de mots. Au bout de tant de temps, tu ouvres ta chaîne YouTube, donc j'ai aussi une chaîne YouTube. Un podcast, donc j'ai aussi un podcast donc qui est un peu laissé à l'abandon. Mais voilà, j'ai vraiment suivi le truc jusqu'à avoir une assez grosse communauté, une liste email. Et l'idée, c'est ça, c'est de... Tu demandes à ta liste email de quoi ils ont besoin, en gros, dans ton domaine. Et après, tu vends un produit qui correspond à ça. Donc, j'ai déroulé. J'ai vraiment fait ça. Entre-temps, je me suis fait coacher pour bien développer le truc, machin. Et donc, aujourd'hui, c'est ça mon métier. Je suis vraiment sur le lettering, essentiellement dans l'enseignement du lettering. Et à côté des projets perso autour du lettering.
Pour expliquer le lettering, parce qu'on en parle...
Ah oui,
le lettering, pardon, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est l'art de dessiner des lettres.
C'est ça, l'art de dessiner des lettres. Donc ça se rapproche un peu, ça s'inspire de la calligraphie et de la typographie.
Comment ça t'est venu ?
Par hasard, au milieu de tous ces loisirs que j'ai, je suis très papier, j'ai un carnet, j'écris beaucoup dans mon carnet. D'ailleurs, tu vois, je pourrais même te les montrer après. J'ai 3 carnets, en gros, où je prends toutes mes notes, où j'ai un fameux bullet journal, le truc un peu à la mode du moment. Et donc je me suis lancée là-dedans, je faisais du lettering dans mon bullet journal. Et ça n'existait pas trop, les blogs sur le lettering.
Okay.
Voilà, juste ça.
D'accord.
Il m'en faut pas plus, moi, pour lancer un truc. Enfin,
et donc, tu fais ça depuis 3 ans ?
Ouais.
D'accord.
Alors, la première année est compliquée. La première année, c'est... là, j'ai tapé dans la
cagnotte. T'as tapé dans la cagnotte.
La réserve de l'écureuil, le pot. mais tranquillement, parce que voilà, j'avais bien confiance dans cette formation sur le blogging. Je savais qu'il fallait quand même... je travaillais ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire qu'il fallait que Google me reconnaisse en tant que blog et en tant que spécialiste du lettering, ce qui aujourd'hui, ça va, pas trop mal. Et du coup, première année, pas trop de rentrée d'argent, mais après, deuxième et troisième...
Et qu'est-ce que tu vends alors ? Des formations, c'est ça ?
Des formations, ouais. Ok. Ouais. Formations en ligne, essentiellement.
Tu peux nous dire combien tu gagnes d'argent ?
Ouais, ça, je suis pas forcément la plus à l'aise parce que j'estime que je suis pas du tout à mes objectifs et que, ouais, c'est un truc.
Ah, c'est dur pour toi ?
Ouais, c'est plus dur pour moi, tu vois. Autant, tu vois, je t'ai cité des chiffres et tout. Là, ouais, je suis encore. Dans un entre-deux ou... Ouais.
Qu'est-ce qui fait que c'est dur, raconte-moi. Je te demande pas de me sortir des chiffres, mais juste de m'expliquer le cheminement.
Parce que... je sais pas, je suis pas... Ah tiens, bonne question. Très bonne question. Je pourrais... Je sais pas, je l'assume pas. Je trouve que je gagne moins que ce que, entre guillemets, je mériterais de gagner. Et j'ai pas... J'ai l'impression que... Que si je le dis. En fait, alors c'est très bizarre ce que j'ai.
Non, vas-y, c'est
que je donne une image, je pense, sur les réseaux sociaux de réussite. J'ai peur de décevoir, en fait, ceux qui me suivent et qui se disent ouais, elle cartonne trop, Ilan et tout.
Ah, yes.
Alors, bon, je veux bien le dire juste que je ne cartonne pas tant que vous le pensez, mais ouais, dire le chiffre, hein, ça gratte un peu.
Ah.
Et aussi par rapport à. Parce qu'on n'en a pas parlé trop de ce sujet d'ailleurs. Le statut de l'artiste vis-à-vis du statut d'un chef ou d'un cadre sup. Je pense que j'ai associé aussi l'argent à un statut social que j'estime avoir un peu perdu. C'est-à-dire que j'aime bien le côté. Bon. Là, vraiment, je dis des trucs perso. Hein. J'aime bien qu'on m'admire un peu.
C'est cool. Merci de partager ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important.
Du coup, je sais que j'ai un parcours dont je peux être fière. Moi, j'étais assez fière de mon salaire, même si c'est pas, tu vois, les 10 000 par mois, mais je veux dire, voilà, j'étais bien, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'on m'admire plus parce que j'ai osé franchir le pas que pour ce que je gagne. Et j'ai envie de montrer qu'un artiste, par exemple, peut bien gagner sa vie. Et je trouve que je ne le représente pas encore aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai encore du chemin pour dire, je gagne tant. Et je suis partie un peu de zéro, vu que j'ai refait ma vie, en quelque sorte.
Bah oui.
Et du coup, ouais, je crois que j'ai ce besoin-là, de me dire... en fait, déjà, quand je suis partie, un truc hyper important, qui était important pour moi, pour que j'accepte de partir, ah ouais, ça, tu vois, je l'ai pas dit, c'est que j'étais persuadée, et je le suis encore, que ce qu'il fallait pour que je parte, c'est que je gagne plus en tant qu'artiste qu'en tant que chef de projet. Donc, quelque part, mon identité se faisait autour de, quand même, de l'argent que je gagnais.
Ok. Parce que j'allais te demander, à partir de quand tu vas partir du principe que tu as réussi et que tu es prête à en parler,
c'est
tu vois.
C'est ça. Bah, je pense que c'était un peu ce plafond de mon salaire d'avant, en fait. En gros, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas à mon salaire d'avant.
Oui.
Et quand je le dis, ça choquerait personne, parce qu'il y a des gens qui se diraient, bah oui, mais tu vis de ta passion, tu vis la vie de tes rêves, ok.
Mais c'est pas assez.
C'était pas ça mon... Enfin, c'est pas que c'est pas assez, mais c'était pas ça mon rêve. Mon rêve n'est pas de pratiquer... Mes trucs artistiques, mon rêve, c'est la fondation, là, le mécénat et tout ça. Donc, c'est plus, mon rêve, c'est voilà, ce rêve un peu ultime. Donc, en fait, c'est pas, je me mets pas comme but ultime, 10 000 par mois, c'est pas ça. Ce sera plutôt la réalisation de ce rêve, c'est-à-dire ce lieu, par exemple, si j'arrive à avoir une résidence, moi j'adorerais avoir une maison qui soit résidence d'artistes, où les artistes viennent, où ils se lancent, peut-être j'ai une âme d'un producteur, peut-être, je sais pas, enfin de...
Ok. Hein. Bah oui, pour le
donc
coup...
Donc c'est plus ça
pour le coup, quand
que
t'es
un chiffre.
Ok.
Donc je peux pas te dire le chiffre, parce en fait, ce qui se passe en plus quand t'es entrepreneur, c'est que tu veux toujours plus, donc l'année prochaine tu te mets plus 10%, plus 20%, tu vas faire x2, machin, mais ça n'a pas de sens si tu sais pas pourquoi tu veux cet argent. Donc tant que l'argent, il pourra servir le rêve, c'est-à-dire, admettons, l'année prochaine j'achète une maison, l'année d'après... Je coach des artistes, enfin j'en sais rien, je sais pas sous quelle forme ça va être encore, mais là je dirais oui c'est bon, j'avance vers ce rêve-là ou vers ce gros projet.
Et t'as pas encore mis sur le papier ton plan ?
Non, pas du tout, non.
Ok. Parce que tu sais, t'as des, t'as des, T'as des gens qui disent, à partir du moment où tu l'écris, enfin, tu vois, que tu le mets noir sur blanc, t'es déjà en train de visualiser le truc, et que t'es déjà en train de te projeter, et donc t'es déjà en train aussi de te caler des étapes, tu vois.
Ouais.
Alors après, je sais que pour la plupart des gens, c'est dur de se caler des étapes parce que ça veut dire que t'es en train de te fixer des objectifs que peut-être tu vas pas atteindre. Mmh. Mais en fait, le simple fait de, je crois, de déjà de se les fixer, c'est hyper intéressant parce que ça te permet de pouvoir savoir là où tu vas, quoi.
Ouais. Alors j'ai pas fait ça. Par contre, j'ai un vision board sous forme vidéo.
Ok.
Que je partage avec des proches. Où il y a un peu ces trucs que je te cite, c'est-à-dire.
Alors un vision board, tu peux expliquer pour les gens qui savent pas, mais.
C'est une sorte de tableau, on dirait tableau de vision. Donc c'est là où tu poses. C'est souvent par image, quoi. C'est pas du texte, c'est pas textuel. Je fais ci, nanana. Mais c'est des images d'une vie rêvée ou d'objectifs. Par exemple, admettons ton rêve c'est de partir voyager en Islande. Bah tu vas mettre une photo de l'Islande.
Ok.
Donc voilà, j'ai une photo ou des vidéos de ma fondation, de moi sur scène en train d'intervenir, de concerts de musique, de rencontres avec des artistes. Okay. Voilà, il y a tout ça dans mon vision board.
T'as tout ça, mais effectivement, tu l'as pas encore mis dans un planning.
Dans un planning, oui, non, voilà, okay. C'est ça.
Ça te fait peur de le mettre dans un planning?
Peut-être. Je sais pas si ça me fait peur. Est-ce que c'est le mot peur ou parce que je j'arrive pas trop encore à voir de combien de temps j'ai besoin, ou je fais un peu confiance au destin. Enfin, là, pour l'instant, ouais, j'ai pas eu ce besoin de le poser sur un planning.
Ok. Cette histoire de fondation.
Oui.
De mécénat. Non, mais c'est trop intéressant.
Ouais.
Tu pourrais avoir l'objectif de devenir salarié dans un grand groupe, au RSE ou dans une fondation, tu vois, pour pouvoir accompagner des artistes avec tout de suite beaucoup de moyens.
Ouais. J'ai jamais pensé à ça.
Ok.
Alors, dans une des boîtes dans laquelle j'étais, je crois que chez AXA, il y avait une filiale qui s'appelait AXA Art, où je pense qu'ils faisaient un peu ça. Mais je me suis déjà dit, si j'étais dans un truc d'une entreprise, bah, j'aurais pas les mains libres de choisir mes artistes, ou voilà, je serais un salarié là-dedans et je serais un pion parmi tant d'autres, alors que moi, j'aime bien choisir moi-même. Après, si, peut-être, ils te donnent la latitude si t'es un peu le directeur artistique, enfin, qui fait les choix des artistes, sans doute. Un peu comme, bah, là, la BNP, je sais que, enfin, j'ai des actions BNP, c'est pour ça que je sais ce qu'ils font, le mécénat BNP. Moi, je vais à des concerts de jazz, je sais qu'ils sont très sur le classique et jazz, et du coup, ils mécènent quelques artistes de jazz que je connais.
Donc, okay.
J'imagine que si je travaillais là-dedans, je pourrais avoir mon mot à dire et dire, ah ouais, bah, t'as l'artiste, j'aime bien. Mais ouais, non, j'ai pas trop pensé à ça.
Non, t'es plutôt parti dans un truc.
C'était mon truc.
Je veux mon truc.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est très entendable. Ok. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé, notamment ce truc, enfin, ce point d'achoppement chez toi, tu vois, de j'ai besoin qu'on m'admire. En fait, j'ai perdu une forme de statut social en quittant. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que. Comment dire, c'est ça, tu te raccroches d'une autre manière à ce statut par l'idée que tu as créé ta boîte, c'est ça, et que tu as créé ton activité. Ok.
Ouais, ouais, c'est intéressant. Ça. Un peu comme quand. Bah, tiens, alors on peut aller sur le truc de l'artiste fauché ou la vision de l'artiste dans ma famille. Parce que mes parents ont toujours su quand même que j'aimais dessiner ou chanter. C'était les deux grands trucs de l'époque, enfin de l'enfance. Et c'était toujours oui, pas de problème. Enfin, ils pouvaient. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais demandé de m'inscrire à un cours de chant ou de dessin.
T'osais pas.
Mais ils me le. J'étais pas encore. Je pense que c'est adulte où j'ai commencé à m'inscrire à plein de cours. Enfant, j'étais très scolaire. C'est-à-dire pour moi, c'était l'école en fait qui donnait des cours de quelque chose. Donc je faisais du dessin à l'école et de la musique à l'école. Et je savais même pas qu'on pouvait en faire en dehors de l'école. Et puis j'étais, voilà, je pense que j'avais un emploi du temps qui était très lié à l'école en fait. Et donc, donc mes parents me disaient que c'était très bien, que c'était bien d'avoir des loisirs et que pour l'épanouissement, tout ça, même maintenant que je suis maman et que je suis avec d'autres parents, j'entends ce message. Tous les parents inscrivent leurs enfants à des activités. C'est le truc un peu à la mode. Alors qu'avant, peut-être moins. Enfin, j'ai fait du piano, mais vite fait. Et du coup, c'était mais ça reste un loisir. Enfin, mais on peut pas en vivre. T'arriveras pas à en vivre. Enfin, c'est très dur d'en vivre. Il fallait être célèbre pour en vivre. Et donc, il y a ce truc un peu de l'artiste célèbre millionnaire, même pas milliardaire. Voilà. Enfin, les artistes connus de ce qu'on voit sur les médias et l'artiste sous les ponts ou qui doit, qui a du mal quoi, à en vivre ou qui a des jobs alimentaires à côté. Enfin, Donc du coup, ça s'est rentré vraiment très profond en moi. C'est-à-dire que pour moi, un artiste, il peut pas vivre de son art. Et même aujourd'hui, même si je me présente artiste en lettering, c'est comme ça que je me présente maintenant, je dis souvent derrière, ah oui, mais en fait, je donne des cours. Enfin, il y a un truc aussi du truc, mais est-ce que j'arrive vraiment à vivre de mon art si je suis prof, tu vois?
Ah, ok.
Un peu comme, je sais pas, un prof de musique qui est prof parce qu'il n'arrive pas à faire des concerts, par exemple. Un truc un peu comme ça. Donc ça, c'est un truc que je travaille en ce moment. Je me pose moi-même la question, s'il n'y avait pas, entre guillemets, la problématique de l'argent, est-ce que ce que t'aimes, c'est vraiment ça ou est-ce que tu voudrais autre chose? Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un très, très fort goût de la pédagogie et de l'apprentissage et du coup, j'adore ça, en fait, apprendre et réenseigner derrière. Donc, je pense que j'ai trouvé un truc, en fait, quand même, dans ce... Voilà. Et du coup, alors, attends, comment j'enchaîne sur la vision de l'artiste dans la famille et du coup, du statut social de l'artiste. C'est-à-dire que dans ma famille, ceux qui sont méritants ou qui ont réussi, ça va être l'ingénieur, le médecin, ce genre de métier.
Les vrais métiers, entre guillemets.
Et même, ouais, c'est ça. Et même, tu vois, moi, je suis dans le milieu, je suis d'origine vietnamienne, donc je connais, par exemple, des gens qui ont, entre guillemets, réussi, enfin, par exemple, acteurs ou quoi. Et dans la communauté, enfin, quand on parle d'eux, on se dit plus, soit c'est un cas isolé, soit, ouais, mais c'est comme, ok, elle a réussi, mais c'est pas un vrai métier. Mmh. Tu vois, des gens comme Lin Dan Pham, tu vois, qui est asiatique. Je pense que du point de vue de ma famille, je leur poserai la question directement, ce sera mieux. C'est pas non plus une réussite. Enfin, je sais pas s'ils aimeraient ça pour moi, par exemple. Okay. Ils se diraient pas, elle a réussi. Ah, tu pourrais réussir comme elle. Tu vois, c'est pas un modèle.
Et c'est important pour toi de réussir aux yeux de ta famille.
Ouais, je pense.
Ok. Parce que tu pourrais t'en contrefoutre aussi.
Tout à fait. Mais je pense qu'il y a quand même de ça, même si j'en suis plus détachée au fur et à mesure que j'avance en âge. Enfin, voilà, parce que j'ai vu ma vie, je suis plus sûre de moi. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées depuis l'enfance.
Tu as
Aïe. Mais il y a quand même ce truc-là. Enfin, je suis quand même, comme je disais au début, je suis très famille, j'aime bien ce truc-là. Ouais, j'aime bien la famille, j'aime bien... moi être fière d'eux, qu'ils soient fiers de moi, enfin je trouve ça d'une façon un peu normale quoi, tu vois, sans mettre la pression derrière ou quoi, mais je trouve ça sain, enfin je trouve ça cool de se dire ah tiens je suis fière de du parcours de mon frère, de ma sœur, de tu vois,
okay.
Sans que ce soit forcément une réussite financière, tu vois, mais au moins qu'ils soient heureux, et je pense que ça les rend fiers et heureux de voir si moi je suis aussi heureuse, après selon quels critères.
Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler avec le recul?
Avec le recul, je pensais plutôt dans une semaine où je me disais « Oh non, j'aurais dû parler de ça !» on a abordé pas mal de trucs. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Je sais pas. Après, peut-être un truc du coup. Oui, alors depuis cette découverte de « il existe une relation à l'argent » et tout, c'est un peu comme le développement personnel, c'est que... l'effet que ça fait, c'est que tu bassines tout le monde autour avec ça. C'est-à-dire que t'as fait une découverte et donc t'es là. Moi, je suis avec mes cousines. Bon, et alors, votre rapport à l'argent? Enfin, voilà, tu vois. Les gens, ils s'en foutent. Enfin, il faut leur laisser faire eux leur chemin, ou quand ils ont envie ou quoi.
Mais tu plantes des petites graines, quoi.
Ouais, c'est ça, quand même. Et, Et du coup, moi, en ce moment, je plante des petites graines sur l'argent, sur un peu vivre la vie de ses rêves, assumer des choix ou des choses comme ça. Et sans vouloir dire, je dis souvent aux gens, parce que. Je disais, admirer, inspirer, j'aime bien ça, être admiré, machin. Mais du coup, quand les gens me demandent des conseils sur l'entrepreneuriat, je me permets quand même pas trop, je me sens pas non plus je me sens pas non plus encore un modèle ou quelque chose comme ça, tu vois. Je sais pas pourquoi je raconte ça. C'est le rapport avec l'argent. Tu m'as dit, est-ce que tu voulais que je parle d'un truc que j'avais oublié? Non, mais non, c'est pas mal.
Mais c'est peut-être parce que ça va avec ton statut.
Ouais, ça va,
ça va aussi ça. Avec le fait que t'as la sensation de pas gagner. On revient à l'argent. Hein. T'as la sensation de pas gagner assez d'argent par rapport à ce que tu voudrais.
Ouais,
quoi.
Ouais,
je crois que c'est peut-être ça le lien.
Ouais, c'est ça.
Le jour où t'auras la sensation d'avoir réussi financièrement, peut-être que tu considéreras que tu seras un modèle de réussite d'entrepreneuriat.
C'est ça.
J'en sais rien.
Ouais, peut-être. Mais j'aimerais bien me décorréler de ça. Enfin, du coup, après ce podcast, je vais me réinterroger, je pense, sur « Ok, c'est quoi la réussite ?» Parce que je pense pas que, fondamentalement, je pense pas que je le lie à l'argent, la réussite. Mais comme j'ai dit au tout début, je lie quand même l'argent au projet, aux réalisations et aux rêves. Donc il y a quand même un truc...
Tu lis pas l'argent à la réussite, mais ça m'étonne, tu vois, que tu me donnes pas ton chiffre d'affaires, par exemple. Ouais, et encore une fois, ça. Je te demande pas de me demander. Mais c'est trop intéressant que tu bugs là-dessus, quoi, tu vois.
Je bug.
Très, très intéressant.
On verra dans quelques années.
Donc peut-être, tu vois, que c'est, finalement, tu le lis peut-être. Ouais. L'argent et la réussite.
Ouais. Pas faux.
Bon, merci beaucoup, Ilan. C'était vraiment
super.
Merci à toi. Je mettrai les liens si les gens veulent découvrir ton blog sur le lettering. Comment tu dis lettering?
Oui.
Je te souhaite une belle journée. Puis merci beaucoup.
Également. Merci.
Salut.
À toi. Ciao.